FM, séance de rattrapage. Ron FM, les 9h-11h, pour mieux vous aider.
On a le plaisir ce matin d'accueillir Jasmine Purneau, logopédiste responsable du CDTEA de Sion. Bonjour Jasmine.
Mais bonjour Patrick. Comment bonjour tout le monde. Mais ça va bien, merci.
Ça va bien. Mm-hmm. Alors, on va parler aujourd'hui des violences domestiques et de leurs conséquences sur l'enfant. Tout ça, c'est parti d'une question d'une auditrice.
Exactement. Voilà, j'ai pensé qu'on a eu une question une fois assez tard, donc on n'y a pas répondu, qui disait « J'entends beaucoup de cris autour et chez les enfants des voisins, comment réagir ?» Et puis cette question m'a beaucoup... ça m'a un peu... pas perturbée. Je me suis dit, il faut y répondre. Et j'ai mis ça en lien avec ce qui me heurte encore beaucoup et ce qui, on essaye de faire le maximum et de la prévention. C'est comment faire avec des voisins, justement. Ça peut être des voisins ou des gens qu'on connaît, où il peut y avoir trop de cris pour les enfants, ou peut-être de la violence. Et puis, comment réagir à ça? Et en effet, il y a des répercussions qui sont importantes sur le développement de l'enfant. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était important qu'on en parle quand même sur toute une émission.
Qu'est-ce qu'on entend par violence domestique?
Bien alors, il y a beaucoup d'infractions dans la violence domestique. Ça peut être des menaces, des injures, des lésions corporelles qui représentent des infractions de violence. Mais ça peut être aussi des mots, des injures, au niveau psychologique, c'est pas seulement que des coups, il y a des voies de fait. Donc toutes ces infractions, elles sont répertoriées, et en Valais, en effet, c'est pas le plus joli canton. Il y a une augmentation de 20% qui a été relevée à toutes les infractions. On en avait un peu moins qu'en 22, mais au niveau de la violence domestique, ça a augmenté. Ça veut dire que il y a des répercussions pour les enfants, et c'est en ça que nous on est important aussi d'aller détecter et puis d'aller voir comment on peut les encadrer, et surtout voir un peu comment on peut aider les parents et reconnaître que l'enfant en a souffert, et actuellement il faut qu'il soit protégé de ces violences là.
Vous allez nous donner quelques pistes, mais avant ça, on va encore poser un petit peu le cadre. Alors, quelles sont les conséquences sur l'enfant des violences domestiques, Jasmine?
Alors, les enfants qui sont exposés à cette violence sont affectés par des troubles psychiques. Ils ressentent aussi de l'anxiété, de la pitié, du découragement, de la détresse, de la peur. Et c'est pas dans la peur et dans ces sentiments-là qu'ils vont pouvoir apprendre. Et souvent, quand on nous demande à l'école en disant « mais cet enfant, il est inattentif, peut-être qu'il a un trouble de l'attention », tout de suite, on pense au trouble. Alors que nous, notre travail, c'est d'aller voir s'il n'y a pas, c'est d'aller en tout cas infirmer qu'il n'y a pas autre chose qui vive et qui peut lui montrer les mêmes signes que l'inattention. Mmh. Parce qu'en effet, l'enfant peut régresser, l'enfant peut refaire pipi au lit, l'enfant peut aussi ne plus parler ou entrer dans un mutisme. Enfin, il y a des comportements assez graves parce qu'ils ne peuvent pas entrer. Ils ont quelque chose d'autre qui peuvent les freiner et qui les inquiètent toute la journée. Il peut y avoir aussi des absentéismes au niveau scolaire où l'enfant préfère rester à la maison pour protéger un des parents plutôt que d'aller à l'école. Donc il y a aussi des phénomènes comme ça où on doit nous aller voir qu'est-ce qui se passe pour cet enfant, pourquoi il présente des difficultés scolaires. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont amenés au CDTEA souvent.
Et la violence, elle peut être ressentie même si c'est pas l'enfant qui est violenté?
Ah bien sûr, alors c'est pour ça que la violence domestique, c'est pas seulement sur l'enfant, mais c'est entre les parents. Et maintenant en Valais, dès qu'il y a de la violence domestique entre les parents, on est obligé de faire un signalement à la PEA pour une protection de l'enfant, parce que en sachant qu'il a vécu, pas lui des coups, mais ce qu'il a entendu, donc il vit automatiquement ce phénomène de peur, de tension qui vit à la maison, même s'il ne voit pas, il entend, il vit avec une forme de peur et de non-compréhension de ce qui se passe, et il y a des répercussions.
Merci pour cette introduction donc sur les violences domestiques. On va continuer de parler de ce sujet. Vous allez nous donner des pistes. On va voir les conséquences visibles à chaque âge dans quelques instants. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser par WhatsApp 079 327 1010. Oh.
You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet. nervously when I got you next to me.
Shape of glass and it's still me for what I'm saying, just take me for what I am, 'cause this is where I'm staying, my two feet are in the sand. If I told you I loved you, would you say that it's f***? If I told you to fly, would you say that you loved her? Don't take me for what I'm saying, just take me for what I am, 'cause this is where I'm staying, my two feet are in the sand.
19h, 6h, sur RON FM, on a gardé le meilleur de la journée. RON FM,
9h-11h,
pour être au courant de tout.
On parle de violence domestique et des conséquences sur l'enfant avec Jasmine Purneau, logopédiste responsable du CDTEA de Sion. Jasmine, on va maintenant peut-être donner quelques pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est peut-être enfant et que nos parents...
Alors pour les enfants, ce qui est important et même crucial, c'est qu'ils aient accès à des personnes de confiance. Alors c'est vrai qu'autour d'eux, il peut y avoir des grands-parents, des tantes, oncles, voisins, amis... parrain, marraine, enseignant, médiatrice, il y a tout un système qui est mis en place pour qu'ils puissent aller évoquer ce qu'ils peuvent vivre, s'ils en ont le courage, parce qu'il faut aussi être courageux de la part d'un enfant pour aller dire ce qu'ils vivent à la maison, parce que ce sont quand même une question de familial et de parents. Mm-hmm. Ça veut dire que de leur donner un cadre sécure, là où ils vivent, même si ce sont des petits, ça peut être des voisins. Donc quand on est voisin, comme la question qui était de l'auditrice, eh bien c'est d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe chez les voisins, pas d'aller dire je vais signaler à la police. La première chose, c'est d'abord voir comment on peut aider cette famille, ces enfants qui crient beaucoup, et comment les parents peuvent être soutenus, voir si on peut les aider. Puis il ne faut pas être spécialement avoir des connaissances sur la protection de l'enfant ou sur la violence pour pouvoir être soutenant et être une oreille attentive. Il faut juste pouvoir se dire c'est un refuge et c'est un lieu où l'enfant a une sécurité et a une reconnaissance de son entité d'enfant. Mmh. Et lorsqu'il n'a pas, en tout cas, et ce qu'il n'a pas comme protection quand il a des parents qui ne s'entendent plus ou qui se tape ou qui se violente, en effet.
Et quand on est témoin de violence, on va peut-être se dire mais je veux pas m'en mêler, ça me concerne pas, alors que c'est faux, il faut le...
Disons que si on ne s'en mêle pas et qu'on se dit bon, c'est pas mon problème, on laisse l'enfant dans une détresse. Mm-hmm. Et c'est peut-être en ça qu'on peut se dire en quoi nous on pourrait aider, être soutenant et puis aller donner une aide sans avoir un jugement. Ce sont des parents qui ont une violence domestique entre eux, c'est qu'ils n'arrivent plus non plus à se gérer. Et ils sont en détresse aussi. Ça veut dire que comment on peut reprendre l'enfant et être, nous, une personne lambda, pas spécialement un spécialiste, pour aller soutenir cet enfant et reconnaître qu'il vit quelque chose de difficile. C'est déjà de lui proposer un lieu où il est peut-être entendu. Après, il y a des choses à faire, en effet. Et puis les parents, peut-être leur dire où ils peuvent s'adresser.
Ouais. On l'a dit, il y a des conséquences sur l'enfant. Les violences domestiques ont des conséquences sur l'enfant à tous les âges. Est-ce qu'on commence par les plus petits ? Quelles sont les conséquences sur les tout-petits ?
Alors, les plus petits... Ils peuvent avoir des troubles, évidemment, dans le développement. Ils peuvent être moins manger ou être irritables ou éprouver de l'anxiété, de la tristesse, des pleurs, un isolement. Donc, freiner le développement peut être freiné. Donc ça, on peut déjà le voir. Entre 3 et 7 ans, ils se sentent quand même coupables de la situation. Et ça les amène, eux, à se comporter différemment. Ils peuvent avoir des régressions dans leurs habitudes, reprendre le pouce ou bien ne plus parler correctement. Enfin, avoir une régression dans son développement. Ils peuvent aussi être agressifs ou rebelles ou destructeurs, hostiles ou provocateurs. On a beaucoup d'enfants aussi qui entrent à l'école en une hache. Enfin, il en existe. Et il y a des enfants qui n'arrivent pas à avoir un comportement comme les autres. Puis là, il faut peut-être aller vérifier qu'est-ce qu'ils vivent aussi à la maison. Après, entre 7 et 13 ans, c'est une étape où l'estime de soi, elle commence à être faible. Il y a un sentiment de haine par rapport à l'adulte qui est violent par rapport à eux. L'enfant peut se montrer encore aussi irritable, frapper, crier sur ses frères et sœurs. Il ressent une honte d'être témoin de ce qui se passe, mais par contre, quand on lui demande, il nie tout. Il nie souvent parce que il protège aussi ses parents. Donc ça, c'est aussi à aller soutenir et reconnaître ce qu'il vit. En 13 et 18 ans, là, c'est en pleine adolescence, c'est pas non plus la même chose. C'est que le jeune peut représenter des comportements qui sont déviants, délinquants, peuvent voler ou se battre dans la rue. Prendre des usages de drogue ou d'alcool en excès, ben, pour pouvoir un peu soit oublier, soit partir dans un impact, ou c'est l'impact de la violence sur ces jeunes, parce qu'ils entendent et qu'ils voient à la maison, ils n'ont pas de moyens pour aller le dire. Et encore une fois, ils restent assez muets, ils ne disent pas ce qu'ils vivent. Mmh. Donc pouvoir reconnaître ce qu'ils vivent et avoir un lieu de sécure pour pouvoir parler, partout, c'est important.
Merci beaucoup Jasmine, on va dans quelques instants donner des pistes pour les parents. On va faire une petite pause musicale. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par WhatsApp au 079 327 1010.
Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them my hands. Pictures of you. Dream of the day you were eating for two.
Like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew.
19h à 6h, le best-of de la journée pour ne rien manquer. Rony FM, à votre service tous les jours de 9h à 11h. Rony FM.
Elle est là avec moi, c'est Jasmine Purnaud, logopédiste et responsable du CDTEA de Sion, pour parler des conséquences des violences domestiques sur l'enfant. Alors Jasmine, au CDTEA, vous êtes confrontée à des cas comme ça, à tous les âges, entre 0 et 20 ans.
Oui.
Plus ou moins. Et comment vous détectez justement les violences domestiques ?
Alors, c'est pas facile à détecter, on ne pose pas la question directement. Souvent, on rencontre les parents... qui viennent avec une demande ou une demande de l'école pour voir pourquoi l'enfant a ses troubles ou ses difficultés à apprendre ou ses difficultés de gestion des émotions à la maison. Donc on a toujours des entretiens avec les parents et c'est dans ces entretiens qu'on peut déjà discuter d'une anamnèse, on regarde un peu comment ça se passe chez eux, est-ce qu'ils ont des règles de famille, comment ça se passe par rapport aux demandes qu'ils ont par rapport à leur enfant. Donc on évalue déjà un peu comment ça se passe chez eux, quel est le climat familial. Mmh. Et puis après on voit aussi l'enfant seul, où on fait une évaluation de son état psychique, de comment il vit, qu'est-ce qu'il vit avec ses difficultés qu'il présente, quand il peut parler, parce que on a des enfants de 0-20 ans. Souvent, c'est vrai que les enfants qu'on a, ils sont entre 5 et 13 ans en général. On a 4% de préscolaires et puis aussi pareil de postscolaires. Donc voilà, c'est dans les entretiens et puis c'est comment l'enfant parle de sa famille. S'il est dans un climat de sécurité, alors il pourra peut-être parler, peut-être pas. Mais en tout cas, on ne le confronte pas à des questions directes parce qu'il ne va pas nous le dire. Donc souvent, c'est soit dans des jeux, soit c'est quand on parle des émotions, c'est quand on a des jeux au niveau symbolique. Donc là, on a parfois des suspicions, et puis après, on doit en parler aux parents de comment ça se passe. Mmh. On essaye d'abord d'écarter toute difficulté qui appartienne au contexte familial, mais sans être ni accusateur. La difficulté, c'est d'aller voir comment on peut soutenir des parents qui sont en perte de vitesse par rapport à l'autorité qu'ils ont. Donc l'importance aussi, c'est d'avoir... de construire un lien solide avec son enfant. Et c'est en ça qu'on doit, nous, un peu poser un cadre. Parce que dès qu'il y a une relation saine et un sentiment qui est capable de grandir avec le temps, l'enfant peut se sentir en sécurité avec les parents. Mmh. Là où il ne l'est pas, alors nous, on doit aussi proposer des pistes de travail et proposer une guidance parentale pour que ça se passe au mieux.
Alors, quelles pistes, par exemple, on pourrait donner aux parents ?
Alors les pistes, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est par rapport à l'éducation, c'est donner de l'amour, accepter le conflit, savoir écouter, mettre des limites, amener à l'autonomie, montrer ses sentiments, prendre du temps. Et prendre le temps, c'est aussi quand on est clair avec soi-même, quand on a des enfants, eh bien on doit s'en occuper aussi, il ne va pas se grandir tout seul. Là on est dans un climat où le dialogue est une clé qui est importante dans la relation, le respect aussi des valeurs qu'on donne à ses enfants, qui ne sont pas toujours les mêmes que l'autre famille. Donc c'est discuter avec cet enfant, prendre du temps pour lui, être patient, et puis quand on n'est pas respecté de l'enfant, quand l'enfant nous parle mal, c'est pas non plus de répondre dans la violence, et c'est aussi de redescendre. On est quand même toujours l'adulte et l'enfant reste à sa place d'enfant, puis c'est d'avoir un recul sur ce qu'on vit avec cet enfant. Ça veut dire toujours avoir une longueur d'avance, puisque c'est de dire si l'enfant n'est pas content, on va pas non plus se fâcher. C'est essayer de dire pourquoi il n'est pas content et toujours instaurer ce climat dans le calme, pas augmenter et pas monter en escalade dans les cris. C'est difficile, c'est pas toujours quelque chose de simple. On peut aussi avoir se fâcher si on se fâche, ou si parfois on a un geste brusque, c'est après s'en excuser, parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait voulu faire, mais parfois on est parti dans quelque chose d'émotionnel. Mmh. Ce qu'il faut, c'est reculer un petit peu et puis discuter avec l'enfant. Donc c'est une des choses qu'on doit faire comme parents, c'est d'apprendre à faire la différence au travers de toutes les normes. Et le plus important, c'est de respecter les normes et assumer et enseigner à son enfant de les suivre, de suivre ce qu'on a décidé de faire. Ce qui n'est pas simple.
C'est pas simple. Et c'est pas évident non plus quand ça ne va pas avec son conjoint ou avec son conjoint et sa conjointe, s'il y a de la violence. Mm-hmm. On est un peu l'exemple aussi de l'enfant.
Ouais, ouais. On est le premier modèle. Encore une fois, on en avait parlé par rapport à l'utilisation des écrans. On est le premier modèle pour l'enfant. Tout parent, l'enfant va répercuter après, il va refaire la même chose par rapport à comment on gère la difficulté, comment on gère le conflit, comment on gère quand c'est difficile, et après il va faire la même chose avec ses pères. Donc si on commence à lui crier dessus ou à le gronder de manière injuste, ben il va faire la même chose avec ses copains quand il y a un conflit. Donc il va un peu. Donc on est un modèle. Puis si c'est difficile, on a toujours des personnes qui peuvent soutenir. Il y a éduquer son enfant chez Caritas qui peuvent donner des conseils d'éducation en ligne ou par téléphone. On doit accepter aussi qu'en tant que parent, on n'est pas toujours au top de notre forme, et puis reconnaître ça et le dire à son enfant.
Merci Jasmine, on va encore donner quelques conseils aux parents dans quelques instants. Si vous avez des questions, c'est le dernier moment. 079 327 10 10.
Superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. It's so that I never notice. Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger. I know that angel used to be the devil on my shoulder, shoulder. Oh, not anymore. When the voices get loud, I'm turning.
Dernière partie de cette émission avec Jasmine Purnaud, logopédiste et responsable du CDTEA de Sion. On parle de la conséquence des violences domestiques sur l'enfant. Déjà pour commencer, Jasmine, on a reçu un message d'une auditrice qui nous dit « Bonjour et bravo à Madame Purnaud. Si j'avais pu vous entendre 20 ans en arrière, vous m'auriez bien aidé. »
Merci beaucoup.
On est tous un petit peu concernés quand même.
Ah bien sûr, oui, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'il y a 20 ans, peut-être on n'avait pas, moi je ne faisais pas la même chose non plus avec mes enfants. Ça veut dire qu'on a tous fait des choses qui ne sont pas tout à fait indiquées. On peut le regretter, on peut s'en excuser. On ne fait pas toujours juste et puis on n'est pas toujours au top de notre forme non plus. Donc il faut aussi reconnaître que éduquer, c'est pas simple du tout. Mais par contre, admettre que c'est pas simple, admettre qu'on peut être parfois aidé à des moments difficiles dans notre vie, eh bien ça c'est pas non plus très grave. Et puis c'est sain de pouvoir demander de l'aide et de se faire soutenir. Et de pas essayer de faire seul, et puis après ne plus en pouvoir, et puis après c'est quand même les enfants qui en ont des conséquences.
On va donner maintenant quelques conseils pour les parents. Comment être positif, hein?
Mais souvent être positif, c'est un recadrage. On peut toujours retourner la situation d'une manière positive. Ça veut dire qu'on a déjà parlé de respecter ses règles. On a chacun ses propres règles. Moi, je reviens toujours sur les grandes règles et les petites règles à la maison. On a toujours dit que trois grandes règles auxquelles on ne va pas déroger, c'est plus important que de les changer tout le temps. Et les petites règles, ben, elles peuvent être variables. C'est pas très grave en soi. Mm-hmm. Si l'enfant ne finit pas son assiette, voilà. Moi, j'aime bien te retourner dans l'autre sens en disant, ben, l'enfant, il peut choisir ce qu'il met dans son assiette, mais s'il se sert, il doit finir. Donc il peut prendre des petites quantités et c'est lui qui a choisi parce qu'on n'a pas tous faim de la même manière, par exemple. C'est des petits exemples. C'est être cohérent aussi. Être cohérent, l'enfant, il est quand même très sensible à la justice ou à l'injustice. Donc il est important que l'enfant ne se sente pas désorienté quand on lui présente des règles. Parfois, il participe aussi à des règles, donc il a aussi émis des règles et des conséquences aux règles. Et si on ne respecte pas ça et qu'on ne suit pas ses propres règles et qu'on n'est pas cohérent, ben, l'enfant, on n'est pas pris au sérieux, donc il ne va pas tellement nous suivre. Mm-hmm. Donc c'est la même chose, c'est d'établir des limites claires et d'expliquer pourquoi, sans donner des justifications non plus. On ne prend pas des grands temps pour expliquer, parce que voilà, la règle, elle est comme ça, puis on ne va pas changer non plus. Et on évite le conflit quand l'enfant ne peut pas perdre tout intérêt à les transgresser. Donc on évite aussi les conflits quand c'est clair. Et puis reconnaître aussi quand l'enfant fait bien les choses. Donc tourner le sens en disant, faites plutôt quelque chose de récompenser un enfant qui fait bien son comportement plutôt que de le punir parce qu'il n'a pas bien fait. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la même règle, mais on le retourne dans le sens positif. Ça aide. Par contre, comment dire non? Ça, c'est toujours difficile de dire non à son enfant quand il demande toujours quelque chose. Et quand on a une manière, on se soucie de son bien-être, à un moment donné, on en a marre et on dit, ok, fais ça. Et c'est quand même lui qui, finalement, qui a le dernier mot. Donc la réalité, en fait, on peut souhaiter que son enfant soit heureux. Et puis voilà, on doit apprendre à dire non, même quand c'est difficile. Mm-hmm. On a l'impression que l'enfant dit « je ne t'aime pas »,« tu n'es plus ma maman, je veux changer de papa » ou « l'enfant, c'est pas grave hein, qu'il dise ça ». De toute façon, il ne peut pas changer ses parents. Et puis, c'est de dire « mais je ne suis pas là non plus pour que tu m'aimes tous les jours ». Et puis, faire la différence entre être aimé, de toute manière, peu importe le comportement qu'il a, on aime son enfant, c'est le comportement qu'il présente qu'on n'aime pas. C'est pas la même chose. Mmh. Donc c'est aussi important dans les mots, comment on s'adresse à lui.
Est-ce qu'il y a un site où on pourrait trouver des informations intéressantes sur les violences domestiques?
Oui. Alors il y a le site de l'Office cantonal de l'égalité de la famille, où il y a une plateforme cantonale contre les violences domestiques. Là, il y a des liens. Il y a toujours chez Caritas aussi, éduquer son enfant, pour parler, pour débloquer une situation. Donc oui, il y a des sites qui peuvent aider, et puis c'est savoir aussi à qui on peut s'adresser, à des permanences. Il y a des permanences aussi à l'Office de protection de l'enfant, et des permanences aussi au CDTEA, pour des questions où une psychologue peut répondre dans la journée à un questionnement, sans pour ça ouvrir un dossier. Ça peut être aussi anonymisé, donc oui, on peut répondre à des questions.
Merci beaucoup Jasmine, et puis on va peut-être rappeler, hein, parce qu'on partait d'une question de base d'une auditrice, que si on est témoin de violences domestiques, on va essayer d'apporter son soutien.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils, et puis on va se retrouver dans un mois pour une dernière émission.
Voilà.
Avec plaisir. À bientôt, bonne journée.
Au revoir. Bye.
Texas, oh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, oh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, hey. Come take it to the floor now. Woo. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Your legs, oh. And throw your
it to the floor.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey. Ooh, it's a real live boogie and a real live hold down. Don't give up. Come take it to the floor now.
Good morning, Valais. On a gardé le meilleur.
Enfin, presque.
Ron FM, à vous, les studios.
Nous sommes ce matin à Washington, aux États-Unis. On s'en va à la rencontre de monsieur l'ambassadeur de Suisse aux États-Unis, Jacques Pitelou. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
On est très très bien, très très bien. On commence à sentir le Washington tropical avec la chaleur humide qui caractérise les mois d'été. Une chaleur presque thaïlandaise ou africaine.
Et en plus, là, vous rentrez d'une semaine où vous êtes adonné à votre passion.
Oui, ma passion, la photo animalière, en particulier les oiseaux, la photo ornithologique. Et j'étais en Arizona, l'un des plus beaux endroits de la planète. Une zone aride avec des déserts, des forêts de hautes montagnes, mais de zones extrêmement sèche, et puis une faune absolument extraordinaire qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup enthousiasmé.
Quelles sont les espèces d'oiseaux que l'on trouve là-bas, en Arizona, et pas en Suisse ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Pratiquement toutes les espèces américaines, en général, on ne les retrouve pas en Suisse. Et d'autre part, les États-Unis sont un pays continent, et je comptais aller en Arizona précisément pour pouvoir photographier les espèces de l'ouest des États-Unis que je n'avais pas vues ici. Et je suis revenu avec 55, je crois, nouvelles espèces d'oiseaux en photo que je n'avais jamais vues ailleurs que sur Internet.
Mais d'où vous vient cette passion pour les oiseaux, Jacques Pitelou ?
Elle me vient de l'enfance et de visiteurs qui étaient venus à la maison et qui, au lieu d'amener une bouteille de vin, mes parents avaient amené un guide ornithologique.
C'est original, ça.
Oui, et puis je me suis plongé dans le guide ornithologique et cette passion m'a pris et du coup, j'ai commencé à observer les oiseaux. Cela fait 50 ans.
Monsieur l'ambassadeur, on a appris récemment que vous allez bientôt quitter Washington pour rentrer en Europe, où vous allez vous installer à Bruxelles. Vous vous sentez impatient. Quel est votre état d'esprit ?
Comme à chaque poste que j'ai occupé à l'étranger, je me sens d'un côté impatient de la nouvelle tâche et extrêmement triste de quitter un pays que j'ai aimé profondément parce que j'ai aimé tous les pays dans lesquels j'étais posté. Et je crois que c'est une condition fondamentale pour bien faire son travail en tant que diplomate. C'est vraiment d'essayer d'avoir un esprit ouvert et de prendre dans les pays dans lesquels on est posté ce qui est positif. Ce qui ne veut pas dire ne pas voir les faces sombres, mais essayer de vraiment se placer dans l'optique des êtres humains qui vivent dans le pays dans lequel on est en poste.
Quelle sera exactement votre nouvelle fonction à Bruxelles ?
Alors d'une part, ambassadeur auprès du Royaume de Belgique et d'autre part, ambassadeur auprès de l'OTAN. Donc de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en ce moment un sujet tout à fait passionnant et c'est pour ça que je souhaitais aller à Bruxelles et le Conseil fédéral a eu la gentillesse de bien vouloir m'y envoyer.
Est-ce que vous êtes un homme de challenge, un homme de nouveaux défis et c'est pour ça que vous avez besoin de chaque temps de changer ?
Ça fait certainement partie de mon profil personnel, mais je crois que cela fait partie du profil de tous les diplomates qui savent qu'à intervalles réguliers, dans le cas des Suisses tous les 4 ans, dans le cas des Américains plutôt 2 à 3 ans, il va falloir recommencer. Alors c'est chaque fois le même travail, mais dans un environnement profondément différent, il faut tout réapprendre sur le pays dans lequel on se trouve et l'organisation avec laquelle on a affaire. Et ça, c'est intellectuellement extrêmement rafraîchissant. Il faut chaque fois se remettre en question. On peut pas s'endormir sur les lauriers.
Aujourd'hui, vous êtes encore à Washington, ambassadeur de Suisse aux États-Unis. De quoi est-ce qu'on parle à Washington ces temps-ci ? Qu'est-ce qui fait l'actualité ? Plus globalement, peut-être aux États-Unis ?
Alors, il n'y a aucun doute que deux sujets d'ailleurs intimement liés font la une constante des médias aux États-Unis. Ce sont d'une part les différentes manifestations liées aux événements de Gaza et deuxièmement la prochaine élection présidentielle et l'influence que le premier de ces événements pourrait avoir sur le deuxième.
Au niveau des manifestations, c'est plutôt donc des manifestations pro-palestiniennes. De quelle ampleur ?
Elles sont d'une ampleur inégalée dans le monde universitaire depuis les manifestations des années 70 contre la guerre du Vietnam. Elle concerne avant tout une élite intellectuelle et avant tout les universités d'élite des États-Unis. Elle touche beaucoup moins la société en général.
Pourquoi est-ce que les jeunes Américains se sentent aussi concernés par ce conflit ?
Je crois qu'il y a différents aspects. Ce qui est extrêmement frappant, c'est de constater le manque de nuances dans l'approche d'un conflit qui est un conflit extrêmement complexe, avec une histoire qui est une histoire longue, avec des erreurs et des crimes commis par les deux côtés. côté avec des revendications qui sont justifiées des deux côtés. Et ici, dans ces manifestations, on sent un manque de nuance. On sent aussi une jeunesse qui tire ses informations avant tout des médias sociaux et pas d'une étude, disons, approfondie du sujet. Je pense que les manifestations seraient plus nuancées si l'on se donnait la peine de se plonger vraiment dans le dossier. Et ça, c'est un phénomène général qui est lié à un certain manque de connaissance du monde extérieur dans la jeunesse américaine. Et lorsqu'un mouvement prend de l'ampleur, il prend de l'ampleur un peu comme un feu de brousse, avec au fond assez peu de réflexion intellectuelle. Vous savez, il y a une chose qui me frappe terriblement et qui me frappe aussi personnellement. Il y a moins d'une année, je recevais à la résidence de Suisse des groupes d'activistes israéliens et palestiniens, des jeunes extraordinaires qui essayent depuis des années d'obtenir une paix qui soit une paix juste pour tout le monde. Parmi mes invités d'il y a une année, deux d'entre eux, d'une part une jeune israélienne et de l'autre une jeune palestinienne. L'une a été tuée le 7 octobre lors de l'attaque terroriste du Hamas. Wow. Et la deuxième, une palestinienne, a été tuée lors des bombardements israéliens. C'est vous dire que tout ça est très très compliqué.
Oui, c'est compliqué, mais c'est quand même très triste aussi.
Ah oui, c'est épouvantable.
Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été avec nous ce matin sur NFM. J'espère qu'on aura une dernière fois l'occasion de venir vous retrouver à Washington avant votre retour en Europe. On fera en sorte que ce soit possible.
Avec plaisir.
Merci.
Au revoir.
Hey, this is Hozier. classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out you really love someone. Tell me it's too late. Hearts are made to bend. Baby, please don't let me break. Yeah, I knew I should have stayed. Cause now you're moving on, and I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Some